Il est 8h42, la revue de presse avec vous, Frédéric Pommier. Salut Frédéric.
Salut Eric. Salut Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et salut à tous. On a retrouvé les ossements des guillotinés de la Concorde. L'histoire est à lire dans Le Parisien ce matin, et c'est celle d'une véritable enquête policière. Une enquête menée par Aymeric Péniguet de Stoutz, administrateur de la chapelle expiatoire, édifice religieux situé à deux pas des grands magasins dans le 8e arrondissement de la capitale. Enquête policière et surtout historique, une plongée dans les archives, dans les écrits de Louis XVIII et dans ceux de l'architecte de la chapelle, laquelle est dédiée depuis 1826 à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, guillotinée en 1793. Des centaines de membres de la noblesse française connurent le même sort, hommes et femmes condamnés par les tribunaux révolutionnaires, mais aussi des acteurs de la Révolution sous la Terreur. Madame du Barry, la dernière maîtresse de Louis XV, Olympe de Gouges, pionnière du féminisme, Charlotte Corday, qui a assassiné Marat, tout comme un certain Robespierre. Jusque-là, on pensait que les restes de ces guillotinés de la place de la Concorde, enterrés un temps dans l'ancien cimetière de la Madeleine, transformé en fosse commune, avaient ensuite été déposés dans les catacombes à Paris. Mais à l'initiative d'Aymeric Péniguet de Stoutz, des recherches viennent de confirmer l'intuition qu'il avait, non. Les ossements des guillotinés de la Révolution ne sont pas dans les catacombes, mais ils sont enfermés entre les murs de la partie souterraine de la chapelle expiatoire. Un archéologue, par ailleurs médecin légiste, a entrepris des fouilles, un examen fibroscopique, grâce auquel il a découvert ici un bout de péroné et là une phalange. Il évoque quatre caisses de bois tendues de cuir et remplies d'ossements humains, une découverte qui devrait passionner les historiens. Il faut parfois savoir remettre en cause ce qu'on pensait être une vérité.
D'ailleurs, les Français sont nombreux à s'intéresser à l'histoire.
On en a l'illustration dans la presse ce dimanche. Dans l'Est éclair, on nous présente Baptiste Garin, un jeune Troyen passionné de photos anciennes, qui a collecté les images de l'un des pires massacres commis par les Allemands en juin 40. Le massacre de plusieurs dizaines de tirailleurs d'Afrique de l'Ouest, dans la commune de Chasselet, dans le Rhône. On les voit, mains en l'air et casque sur la tête, à la une de Libération Champagne. Dans l'Alsace, c'est un autre historien amateur, un Mulhousien, Christophe Agri, qui, il y a 10 ans, a entrepris de retrouver les noms des milliers de soldats engagés sur la ligne Maginot. Un travail colossal qui lui a déjà permis de sortir de l'anonymat quelque 18 000 combattants. Son enquête tient de l'hommage. Et puis le magazine Vanity Fair nous raconte l'histoire d'un bijou. La broche Oiseau Libéré, imaginée par Jeanne Toussaint, directrice artistique de la maison Cartier à la Libération de Paris. Pendant l'occupation, elle avait d'ailleurs déjà conçu une série de broches similaires exposées dans les vitrines de la rue de la Paix, à quelques dizaines de mètres de l'état-major allemand installé au Ritz. Des oiseaux, symboles d'un esprit de résistance et de liberté, les Allemandes ne s'y trompèrent pas et confisquèrent les bijoux. Jeanne Toussaint passa alors 3 jours dans les locaux de la Gestapo, avant de reprendre ses activités dans une industrie où l'on ne pouvait plus acheter ni métal, ni pierre, mais seulement faire avec les matériaux que venaient apporter les clients. Et l'article d'évoquer une fervente catholique qui fit fondre ses médailles religieuses afin d'arborer une étoile en or jaune. Quant à la broche, Oiseau Libéré, ce n'est donc qu'en 1944 qu'elle put s'envoler. Se plonger dans l'histoire, c'est aussi découvrir des héros méconnus.
Et on trouve d'autres portraits dans la presse ce matin.
Des hommes et des femmes qui racontent notre époque. Et un adolescent mexicain, dans le magazine de l'Équipe. Il avait 16 ans, il était footballeur. Il s'appelait Alexander Martinez. Et il y a 2 semaines, il aurait été abattu par un policier. Son tort, être allé chercher à la nuit tombée des sodas à la boutique d'une station essence et avoir croisé une patrouille dans l'un des coins du pays où l'on tire avant d'enquêter, écrit le quotidien El País dans son édition latino-américaine. Aujourd'hui, ce jeune garçon, Alexander Martinez, est devenu une icône de la lutte contre l'impunité des forces de l'ordre au Mexique. Même sujet. Autre icône, dans Le Parisien, cette fois qui, sous le titre « La combattante », brosse le portrait d'Assa Traoré, à la tête du comité La Vérité pour Adama. Assa Traoré, que le quotidien présente comme la nouvelle figure de la lutte contre les violences policières et le racisme, hommage de Christiane Taubira. Assa Traoré est ardente et volontariste, et ce qui a surgi le 2 juin dernier, un rassemblement de 20 000 personnes à Paris, aucun syndicat, ni aucun parti politique n'aurait pu le faire. Dans Le Point, on découvre d'autres jeunes femmes engagées dans le même combat, d'autres sœurs de victimes, qui pour certaines se sont engagées dans cette bataille en y laissant parfois leur vie personnelle. Elle s'appelle Ramata Tieng, Amal Bentounsi, ou Aurélie Garand. Et l'hebdomadaire les présente comme de nouvelles Antigone, des militantes radicales. Ça et là, on trouve également d'autres portraits. Ce matin, dans le JDD, c'est une institutrice de Charente qui fait classe à ciel ouvert. Une méthode buissonnière, des cours en pleine nature. Méthode qui ferait de plus en plus d'adeptes à travers l'Hexagone. Dans le journal de Saône-et-Loire, un ancien danseur de hip-hop qui, après avoir stoppé l'école à 16 ans, vient de devenir avocat. Bravo. Dans le Parisien, c'est une experte des promotions dans les magasins qui nous donne ses conseils pour économiser remises et bons de réduction. Lisez, c'est intéressant, pécuniairement parlant notamment.
Et puis ce matin, évidemment, il est aussi question de politique.
Avec le second tour des élections municipales, c'est la fin d'un scrutin hors norme, nous dit le Bien Public, un scrutin qui initialement devait avoir lieu le 22 mars. C'est l'abstention par favorite, annonce le courrier Picard qui précise que les contraintes sanitaires font hésiter nombre des électeurs. Enfin, je vous conseille la lecture de la revue Kaizen, dans laquelle on nous parle notamment du putois. Ce petit plantigrade qui a si mauvaise réputation dit qu'il ne sent pas bon le putois, eh bien, c'est faux. Si son colocataire occasionnel, le terrier, le renard, peut effectivement puer, le blaireau, lui, ne stocke pas de nourriture et fait des crottes dans des pots creusés à l'extérieur, voire plus loin, afin de marquer son territoire. Sa réputation odorante vient de ce que ses glandes sécrètent un musc qui imprègne ses crottes et donc son territoire ou ses congénères. Mais puer comme un putois, ça ne veut strictement rien dire. Il faut toujours savoir remettre en cause ce qu'on pensait être une vérité.
Et ce sera la leçon du jour. Merci Frédéric Pommier. Génial votre précédent livre, Suzanne, qui avait été salué par la critique et par le public. Ben, j'ai en main le dernier livre, ça s'appelle Le quart d'heure de célébrité. Ça fait écho à vos chroniques du vendredi sur France Inter. Des parcours de personnes soudainement mises en lumière et ça raconte évidemment aussi notre époque. Ça sortira le
8 juillet.
Le 8 juillet, Frédéric Pommier, Le quart d'heure de célébrité. Merci Frédéric, c'était un plaisir de bosser avec vous encore cette année.
Merci à vous.